Comment évoluera le flux successoral au XXIe siècle? Compte tenu de la forte progression du flux successoral observé au cours des dernières décennies, il est naturel de se demander si cette hausse va se poursuivre. Nous avons représenté sur le graphique 11.6 deux évolutions possibles pour le XXIe siècle. Il s'agit d'une part d'un scénario central, correspondant à l'hypothèse d'un taux de croissance de 1,7% par an pour la période 2010-2100 et d'un rendement net du capital de 3% pour la période 2010-2100. Et d'autre part, d'un scénario alternatif correspondant à l'hypothèse d'une croissance réduite à 1% pour la période 2010-2100 et d'un rendement net du capital montant à 5%. Cela correspond à une suppression complète de tous les impôts pesant sur le capital et ses revenus, y compris sur les bénéfices des sociétés, ou bien à une suppression partielle doublée d'une hausse de la part du capital. Dans le scénario central, les simulations issues du modèle théorique, utilisées avec succès pour rendre compte des évolutions de la période 1820-2010, suggèrent que le flux successoral devrait poursuivre sa progression jusqu'aux années 2030-2040, puis se stabiliser autour de 16-17% du revenu national. D'après le scénario alternatif, le flux successoral progresserait de façon plus importante jusqu'aux années 2060-2070, puis se stabiliserait autour de 24-25% du revenu national, soit un niveau similaire à celui observé dans les années 1870-1910. Dans un cas, le retour de l'héritage ne serait que partiel. Dans l'autre, il serait complet, tout du moins pour ce qui concerne la masse des successions et donations. Mais dans les deux cas, le flux de successions et donations serait en tout état de cause très élevé au XXIe siècle, et en particulier beaucoup plus élevé que ce qu'il a été lors de la phase exceptionnellement basse observée au milieu du XXe siècle. Il faut évidemment souligner l'ampleur des incertitudes entourant de telles prévisions, qui ont principalement un intérêt illustratif. L'évolution du flux successoral dans le siècle qui s'ouvre dépend de multiples paramètres économiques, démographiques, politiques, dont toute l'histoire du siècle passé démontre qu'ils peuvent faire l'objet de retournements de grande ampleur et largement imprévisibles. On peut aisément imaginer d'autres scénarios conduisant à d'autres évolutions, par exemple en cas d'accélération spectaculaire de la croissance démographique ou économique, cela semble peu plausible, ou bien de changements radicaux dans les politiques publiques vis-à-vis du capital privé ou de l'héritage, ce qui est peut-être plus réaliste. Insistons également sur le fait que l'évolution du profil par âge des patrimoines dépend au premier chef des comportements d'épargne, c'est-à-dire des raisons qui font que les uns et les autres accumulent des patrimoines. Comme nous l'avons déjà abondamment noté, ces raisons sont multiples et extrêmement variées, et sont souvent présentes dans des proportions diverses au sein de chaque individu. On peut épargner pour faire des réserves en vue de la retraite ou d'une possible perte d'emploi ou de salaire, épargne de cycle de vie ou de précaution, ou bien pour constituer ou perpétuer un capital familial, ou simplement par goût pour la richesse et le prestige qu'elle confère parfois, épargne dynastique ou d'accumulation pure. Dans l'absolu, on peut tout à fait imaginer un monde où chacun choisirait de transformer en rente viagère l'ensemble de sa fortune, de façon à mourir sans aucun patrimoine. Si de tels comportements devenaient subitement prédominants au XXIe siècle, alors le flux successoral serait évidemment ramené à peu de choses, quelles que soient par ailleurs les valeurs prises par le taux de croissance et le taux de rendement du capital. Les deux scénarios d'évolution présentés sur le graphique 11.6 n'en sont pas moins les plus plausibles, compte tenu des informations actuellement disponibles. En particulier, nous avons supposé le maintien au cours des années 2010-2100 du même type de comportement d'épargne que celui observé dans le passé, que l'on peut caractériser de la façon suivante. Par-delà les très grandes variations de comportements individuels, on constate que les taux d'épargne sont en moyenne nettement plus élevés quand le revenu ou le patrimoine initial sont plus élevés, mais que les variations en fonction de la tranche d'âge sont beaucoup plus réduites. En moyenne, en première approximation, on épargne dans des proportions comparables à tous les âges. En particulier, on n'observe pas le comportement massif de désépargne aux âges élevés prédit par la théorie du cycle de vie, quelle que soit l'évolution de l'espérance de vie. Cela s'explique sans doute par l'importance du motif de transmission familiale. Personne ne souhaite vraiment mourir sans richesse, y compris dans des sociétés vieillissantes. Mais aussi par une logique d'accumulation pure, ainsi que par le sentiment de sécurité, et non seulement de prestige et de pouvoir, que procure le patrimoine. Par exemple, à revenu donné, les personnes sans enfants accumulent autant que les autres. La très forte concentration des patrimoines, la part du décile supérieur est toujours d'au moins 50-60% du patrimoine total, y compris au sein de chaque groupe d'âge, est le chaînon manquant qui permet d'expliquer l'ensemble de ces faits, et que néglige totalement la théorie de Modigliani. Ce retour graduel depuis les années 1950-1960 à une inégalité patrimoniale de type dynastique permet de comprendre l'absence de désépargne aux âges élevés. L'essentiel du patrimoine est détenu par des personnes qui ont les moyens de financer leur niveau de vie sans vendre leurs actifs, et donc le maintien de l'héritage à un niveau élevé et la perpétuation du nouvel équilibre avec une mobilité certes positive, mais réduite. Le point essentiel est que pour une structure donnée des comportements d'épargne, ce processus cumulatif est d'autant plus rapide et inégalitaire que le taux de rendement du capital est élevé et que le taux de croissance est faible. La très forte croissance des 30 glorieuses explique la relative lenteur de la remontée du rapport mu entre la richesse moyenne au décès et celle des vivants, et donc du flux successoral au cours des années 1950-1970. Inversement, l'abaissement de la croissance explique l'accélération du vieillissement des patrimoines et du retour de l'héritage observé depuis les années 1980. Intuitivement, quand la croissance est forte, par exemple quand les salaires augmentent de 5% par an, il est plus facile pour les jeunes générations d'accumuler des patrimoines et de faire jeu égal avec les plus âgés. Dès lors que la croissance salariale s'abaisse vers 1-2% par an, voire en deçà si l'on retire la part croissante du revenu national finançant les retraites et la santé, les jeunes actifs sont presque inévitablement dominés par les plus âgés, dont le patrimoine progresse au rythme du rendement du capital. Ce processus simple, mais important, permet de très bien rendre compte de l'évolution du rapport mu et du flux successoral annuel, et explique pourquoi les séries observées et simulées sont extrêmement proches au cours de l'ensemble de la période 1820-2010. Quelles que soient les incertitudes, il est donc naturel de considérer que ces simulations fournissent un guide utile pour l'avenir. D'un point de vue théorique, on peut démontrer que pour une large classe de comportements d'épargne et pour une croissance faible comparée au rendement du capital, alors la hausse du rapport mu équilibre presque exactement la baisse tendancielle du taux de mortalité M, si bien que le produit mu multiplié par M ne dépend quasiment plus de l'espérance de vie et est presque entièrement déterminé par la durée d'une génération. Le résultat central est qu'une croissance de l'ordre de 1% est de ce point de vue peu différente d'une croissance rigoureusement nulle. Dans les deux cas, l'intuition selon laquelle le vieillissement conduit à la fin de l'héritage se révèle fausse. Dans une société qui vieillit, on hérite plus tard, mais on hérite de montants plus élevés, tout du moins pour ceux qui héritent, si bien que l'importance globale de l'héritage demeure inchangée. Du flux successoral annuel au stock de patrimoine hérité. Comment passe-t-on du flux successoral annuel au stock de patrimoine hérité? Les données détaillées dont nous disposons sur le flux successoral et sur les âges des défunts, héritiers, donateurs et donataires, nous permettent d'estimer pour chaque année de la période 1820-2010 le total des patrimoines hérités par les personnes vivantes au cours de l'année en question. Il s'agit donc principalement d'additionner les successions et donations reçues au cours des 30 années précédentes. Parfois davantage en cas d'héritage particulièrement précoce ou de longévité exceptionnelle, et inversement dans les cas contraires, et de déterminer ainsi la part de l'héritage dans le total des patrimoines privés. Les principaux résultats sont indiqués sur le graphique 11.7, où nous avons également représenté les simulations réalisées pour la période 2010-2100 à partir des deux scénarios analysés plus haut. Les ordres de grandeur à retenir sont les suivants. Au 19e et jusqu'au début du 20e siècle, lorsque le flux successoral atteint chaque année l'équivalent de 20-25% du revenu national, les patrimoines hérités représentent la quasi-totalité du total des patrimoines privés, entre 80 et 90%, avec une tendance à la hausse. Il faut toutefois souligner qu'il existe toujours dans de telles sociétés, à tous les niveaux de fortune, une part significative des détenteurs de patrimoine, entre 10 et 20%, qui ont accumulé leur fortune à partir de rien. Il ne s'agit pas de sociétés immobiles. Simplement, les patrimoines hérités constituent l'immense majorité des cas. Cela ne doit d'ailleurs pas surprendre. Si l'on cumule un flux successoral annuel de l'ordre de 20% du revenu national pendant approximativement 30 ans, on aboutit mécaniquement à une énorme masse de successions et de donations de l'ordre de 6 années de revenu national, qui représente donc la quasi-totalité des patrimoines. Au cours du XXe siècle, à la suite de l'effondrement du flux successoral, cet équilibre s'est totalement transformé. Le point le plus bas est atteint dans les années 1970, après plusieurs décennies d'héritage faible et d'accumulation de nouveaux patrimoines. Le capital hérité représente à peine plus de 40% du capital privé. Pour la première fois sans doute dans l'histoire, à l'exception des pays neufs, les patrimoines accumulés du vivant des personnes constituent la majorité des patrimoines, près de 60%. Il est important de réaliser deux choses. D'une part, le capital a effectivement changé de nature dans l'après-guerre. D'autre part, nous sortons tout juste de cette période exceptionnelle. Il n'en reste pas moins que nous en sommes nettement sortis. La part des patrimoines hérités dans le patrimoine total n'a cessé de progresser depuis les années 1970. Elle est redevenue nettement majoritaire dès les années 1980-1990 et, d'après les dernières données disponibles, le capital hérité représente en 2010 environ les deux tiers du capital privé en France, contre à peine un tiers pour le capital constitué à partir de l'épargne. Compte tenu des niveaux très élevés du flux successoral actuel, il est hautement probable, si les tendances se poursuivent, que la part des patrimoines hérités continue de croître dans les décennies à venir, dépasse 70% d'ici à 2020 et s'approche de 80% dans les années 2030-2040. Dans le scénario où la croissance s'abaisserait à 1% et où le rendement net du capital monterait à 5%, la part des patrimoines hérités pourrait poursuivre sa progression et atteindre 90% d'ici à 2050-2060, soit approximativement le même niveau qu'à la belle époque. On voit donc que la courbe en U, suivie par le flux successoral annuel en proportion du revenu national au cours du XXe siècle, s'accompagne d'une courbe en U tout aussi spectaculaire au niveau du stock cumulé des patrimoines hérités en proportion du patrimoine national. Afin de bien comprendre le lien entre ces deux courbes, il est utile de comparer le niveau du flux successoral à celui du taux d'épargne, dont nous avons vu dans la deuxième partie qu'il était généralement de l'ordre de 10% du revenu national. Lorsque le flux successoral représente 20-25% du revenu national, comme cela a été le cas au XIXe siècle, cela signifie que les sommes reçues chaque année sous forme de successions et donations sont plus de deux fois plus importantes que le flux d'épargne nouvelle. Si l'on ajoute à cela qu'une partie de cette épargne nouvelle provient des revenus du capital hérité, il s'agit même de la majeure partie de l'épargne au XIXe siècle, on voit bien qu'il est inévitable avec de tels flux actuels que le patrimoine hérité domine largement le patrimoine épargné. À l'inverse, quand le flux successoral tombe à tout juste 5% du revenu national, comme cela a été le cas dans les années 1950-1960, soit deux fois moins que le flux d'épargne nouvelle, en supposant toujours un taux d'épargne de l'ordre de 10%, ce qui est approximativement le cas, il n'est pas étonnant que le capital épargné domine le capital hérité. Le fait central est que le flux successoral annuel est repassé devant le taux d'épargne au cours des années 1980-1990 et lui est nettement supérieur dans les années 2000-2010, avec au début des années 2010 l'équivalent de près de 15% du revenu national reçu chaque année sous forme de successions et donations. Pour mieux prendre la mesure des sommes en jeu, il est sans doute utile de rappeler que le revenu disponible monétaire des ménages représente environ 70-75% du revenu national dans un pays comme la France en ce début de XXIe siècle, compte tenu de l'importance des transferts en nature, santé, éducation, sécurité, divers services publics, etc., non pris en compte dans le revenu disponible. Si l'on exprime le flux successoral non pas en proportion du revenu national, comme nous l'avons fait jusqu'ici, mais en proportion du revenu disponible, alors on constate que les successions et donations reçues chaque année par les ménages français représentent au début des années 2010 l'équivalent de 20% de leurs revenus disponibles et ont donc, en ce sens, déjà retrouvé leur niveau des années 1820-1910, voire graphique 11.8. Ainsi que nous l'avons expliqué dans le chapitre 5, il est sans doute plus justifié pour faire des comparaisons spatiales et temporelles d'utiliser le revenu national et non le revenu disponible comme dénominateur de référence. Il n'en reste pas moins que la comparaison avec le revenu disponible exprime également une certaine réalité, en un sens plus concrète, et permet de réaliser que l'héritage représente d'ores et déjà l'équivalent de 1/5 des autres ressources monétaires dont disposent les ménages, par exemple pour épargner, et devrait rapidement atteindre 1/4, voire davantage.